France Inter.
Enquête de politique, chaque semaine, nous explorons une idée, une tendance, un mouvement politique, son histoire et son actualité, son poids sur nos consciences et dans nos débats.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Et aujourd'hui, les réactionnaires, à l'origine, le refus de la révolution.
Le divorce fut de tous les désordres du paganisme, celui qui résista le plus longtemps à l'influence de la religion chrétienne. Il fallut, pour déraciner l'habitude du divorce, toute l'autorité des chefs de l'Église. Mais la Révolution française, qui s'est emparée de tous les moyens de séduction et de désordre, ne négligea pas ce moyen-là. Le divorce fut à nouveau décrété, monument de honte et de licence qui attestera au siècle futur qu'elles ont été la faiblesse des mœurs et le dérèglement des esprits.
Réag, ça veut dire réagir à l'esprit du temps qui est le produit de cette 68-ardisation de la société. C'est l'ordre qui est libérateur.
Les réacs sur bif, disons-le, c'est un poncif du commentaire politique depuis la libération que de crier au retour de la réaction. Les réactionnaires étaient déjà de retour avec le poujadisme dans les années 50, puis avec l'Algérie française, puis avec la nouvelle droite de la fin des années 70, avec l'essor du Front National fin 80-90, avec au début des années 2000 un mouvement intellectuel anti-culture de masse réagissant à la supposée victoire culturelle des 68-ards, s'opposant à l'âge cite bien-pensance ou pensée unique, c'est-à-dire à l'antiracisme ou à la tolérance envers l'homosexualité. Puis vint un courant intellectuel encore et politique aussi, identitaire, incarné dans la sphère médiatique par Valeurs Actuelles, Le Figaro Vox, CNews, Causeur, qui prétend mener un combat civilisationnel face, j'ouvre encore les guillemets, au péril islamiste woke, à la dictature des minorités autant qu'à la trottinette des bobos des villes. Dans la sphère politique, ce mouvement est incarné principalement, et à l'extrême, par Éric Zemmour. Enfin, il y a ce que l'on appelle la fachosphère aujourd'hui, qui inonde les réseaux sociaux, le contexte international avec la progression des régimes illibéraux et l'offensive de désinformation menée par les fermatrolls de la Russie poutinienne donne du souffle, une visibilité surdimensionnée à l'offensive réactionnaire. Le rêve des nouveaux réacs, c'est d'emprunter les codes de la gauche sociétale victorieuse depuis les années 60 pour infuser leurs idées dans la société et se défaire de cette image rétrograde. Ce sont les réacs gramsciens du nom de ce philosophe Gramsci, italien et marxiste, qui avait théorisé le rôle des intellectuels et de la culture pour produire du sens commun. Avant la guerre, surtout avant la Première Guerre mondiale, le monde intellectuel français, le germano-pratin moyen, était réactionnaire, Action française, il fustigeait la gueuse, la République. La Seconde Guerre mondiale, qui a vu sombrer Charles Maurras et nombre de ses admirateurs dans le déshonneur de la collaboration, avait, croyait-on, achevé l'idée réactionnaire. Elle mutera et nous verrons comment au cours de ces émissions consacrées à l'idée réactionnaire. La réaction, c'est au départ le refus de la révolution de 1789, de ses valeurs, de sa philosophie, l'humanisme, l'individualisme positif des Lumières, l'universalisme et plus tard la laïcité. Plus personne ne remet en cause officiellement la République en tant qu'institution et système de valeurs dont la laïcité, qui est même travestie par certains à l'extrême droite en système identitaire, le mot réactionnaire recouvre dès lors une autre réalité politique. Trois grandes périodes sont à distinguer quand on parle de la réaction sur le temps long pour éclairer ce qu'est l'offensive culturelle et politique réac d'aujourd'hui. La période qui va de la Révolution à l'affaire Dreyfus, les réactionnaires sont alors des royalistes. Deuxième période, de l'affaire Dreyfus à la Seconde Guerre mondiale, les réactionnaires sont alors des nationalistes autoritaires. Enfin, de 1945 à aujourd'hui, les réactionnaires sont les résistants actifs à la modernité sociétale, à la démocratie libérale, toujours teintée de nationalisme. Dans le volet d'aujourd'hui de notre série d'enquêtes de politique consacrée à l'idée réactionnaire, nous allons nous intéresser surtout aux deux premières périodes, donc de 1789 à 1945, avec trois historiens. Gilles Richard, d'abord, que nous avions déjà interrogé sur le thème de l'agrarisme. D'ailleurs, l'agrarisme est aussi, d'une certaine façon, une branche de la mouvance réactionnaire. C'est un peu le premier épisode de notre série, à retrouver en podcast et est déjà disponible. Gilles Richard est historien au CNRS, à Rennes, président de la Société française d'histoire politique et auteur chez Perrin de l'histoire des droites en France de 1815 à nos jours. Gilles Richard, qui sont les réactionnaires juste après la Révolution ?
Sont réactionnaires ceux qui refusent l'abolition de la monarchie absolue et ce qui va avec, ce qui est très important, la grande réforme et les coups portés à l'Église catholique qui était le principal soutien de la monarchie absolue.
Voilà. Donc les réactionnaires sont ceux qui veulent revenir aux ordres anciens avant la Révolution.
À l'Ancien Régime, précisément. Alors qu'on invente l'expression « Ancien Régime » sous la Révolution pour montrer qu'on a changé de régime. Ce sont les contre-révolutionnaires.
Les contre-révolutionnaires. Le mot réactionnaire n'apparaît pas tout de suite.
Non, il apparaît sous la monarchie de Juillet, après 1815.
Après la Restauration.
Voilà, et notamment quand les partisans de Louis-Philippe se placent dans ce qu'ils appellent le juste milieu, entre ce qu'ils qualifient de gauche révolutionnaire, ce sont seulement les républicains à l'époque, et de droite réactionnaire.
Où est-ce que vous placeriez les réactionnaires dans la classification de René Raymond des trois droites? On rappelle ce classique de l'analyse politique, les trois droites en France sont composées des légitimistes, des orléanistes et des bonapartistes. On imagine que c'est parmi les légitimistes.
Oui, bien sûr, parmi les légitimistes. Mais pour les républicains de la Troisième République, les bonapartistes font partie des réactionnaires. Gambetta met dans le même sac politique, si je peux dire, les bonapartistes et les monarchistes, en les qualifiant d'une même formule, les tenants du pouvoir personnel. Et donc deviennent réactionnaires sous la Troisième République ceux qui ne sont pas pour la République et le suffrage universel et la démocratie. Donc on ajoute des réactionnaires à la première catégorie, qui sont les tenants de l'Ancien Régime et donc les légitimistes.
À partir de la Troisième République, donc de la fin du XIXe siècle, on considère que est réactionnaire non pas celui qui veut revenir à l'Ancien Régime capétien et aux trois ordres du régime ancien, mais celui qui est pour le pouvoir personnel, voilà. Le pouvoir autoritaire.
Voilà.
Là, on change d'acception.
On change d'acception et c'est précisément ce qui fait que la théorie des trois droites de René Raymond n'est pas tenable, même si elle fonctionne tout à fait au XIXe siècle, en tout cas pendant les deux premiers tiers du XIXe siècle.
Alors comme tous les historiens, comme tous les politistes modernes, vous commencez toujours par rendre hommage à René Raymond, et puis après vous dites que la catégorisation des trois droites n'est plus tout à fait la bonne. Alors quelle est votre catégorisation?
Mais il y a que moi qui ai osé écrire une histoire des droites complète
en plus,
sur la même période que René Raymond.
je vous en félicite, il a eu je crois au moins 6 ou 7 rééditions, René Raymond peut-être
oui,
que...
Pas moi. Cette théorie des trois droites, les tenants du retour à l'Ancien Régime, les tenants du retour au bonapartisme et les tenants du retour à la monarchie à l'anglaise, parlementaire et censitaire, où seuls les riches votent, c'est tout simplement les tenants de trois régimes qui ont existé sous la Révolution. La Constitution de 1791, la République à l'époque de l'an 2, et puis le bonapartisme après le coup d'État des 18 Brumaire. Et on rejoue cela, si je peux dire, un jeu assez macabre et dramatique, et beaucoup de morts, au 19e siècle. Mais une fois que la République est installée, les cartes se redistribuent totalement. Et d'ailleurs, il n'y a plus vraiment de légitimistes et d'orléanistes, puisque d'abord les Bourbons n'ont plus d'héritiers, que les monarchistes se réunissent et que toute une partie des orléanistes sont passés à la République, qui sont passés chez les républicains modérés, libéraux, et toute une partie des légitimistes vont passer soit à la démocratie chrétienne, soit à l'agrarisme, soit au nationalisme, trois nouvelles familles politiques qui naissent à la fin du XIXe siècle dans le cadre de la République démocratique. Et donc les trois droites, il reste des monarchistes, il y a toujours des individus qui vont à la messe le 21 janvier, à la cathédrale de Tours, il y en a dans d'autres cathédrales. Il y a toujours des bonapartistes, mais ils sont très peu nombreux.
Oui, il y a toujours ceux qui, le 21 janvier, quand ils envoient une lettre, quand on envoyait des lettres, mettaient Marianne à l'envers, le timbre,
voilà.
Le timbre, la tête en bas.
Exactement, voilà. Mais il n'y a plus beaucoup de républicains qui mangent de la tête de veau ce jour-là, non ?
Enquête de politique aujourd'hui, enquête de réaction. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver la série d'émissions consacrées au sujet grâce au podcast sur l'appli Radio France ou sur la page de l'émission du site de France Inter. Et vous pouvez aussi nous écrire maintenant sur la boîte mail de l'émission pour, par exemple, nous suggérer un isme à explorer. Avant d'aller plus loin, il faut s'intéresser à la loi Le Chapelier qui met fin en 1791 aux corporations professionnelles et en quelque sorte libéralise l'économie, permet de créer des solidarités transversales de classe plutôt que horizontales par métier. La loi Le Chapelier est un peu la version économique et sociale de la fin des trois ordres de l'Ancien Régime. On va interroger Olivier Dard, historien à Paris 4 et membre du CNRS. Il est, entre autres, le co-auteur de la série des dictionnaires du conservatisme, dictionnaire du progressisme et dictionnaire du populisme aux éditions du CERF. Alors je vous propose d'écouter d'abord la lecture du décret-loi Le Chapelier et puis on retrouve juste après Olivier Dard pour quelques explications.
Il n'y a plus de corporation dans l'État. Il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. Le Chapelier, présentation du décret du 14 juin 1791.
Donc, Olivier Dard, la loi, le décret Le Chapelier, casse le système de corporation. C'est peu connu du grand public, mais c'est une loi, un décret, une norme qui change la nature de la vie économique et sociale en France.
Effectivement, c'est le triomphe d'une certaine idée libérale, oui. Dans la mesure où, effectivement, l'individu se retrouve finalement au centre du système économique, ce qui, évidemment, met de côté à la fois les corporations. Et derrière les corporations, il y a ce que les corporatistes par la suite vont appeler la communauté de travail. Mais il y a aussi, le terme est employé, le terme intermédiaire, on supprime les corps intermédiaires. Et de ce point de vue, ce décret Le Chapelier est effectivement considéré comme scélérat. Et au XIXe siècle, et en particulier après 1870, tout le renouveau de la pensée corporatiste va s'inspirer de la remise en cause de ce décret pour justement opposer à l'économie libérale un nouveau système qui serait le retour, et un retour très aménagé à des formes de corporation, autour d'un projet de catholicisme social porté notamment par deux hommes, Albert Demain d'un côté et René Latour-Dupin de l'autre, très amis d'ailleurs à l'époque les uns et les autres.
Alors le décret Le Chapelier est un décret libéral, vous le dites, mais c'est aussi un décret qui permet la constitution des syndicats généraux, c'est-à-dire pas simplement de corporations. Donc ceux qui s'opposent à la loi Le Chapelier et veulent revenir aux corporations, est-ce qu'on peut les mettre dans le camp des réactionnaires, ceux qui veulent revenir à un ordre ancien? Parce qu'on connaît les trois ordres, voilà, le tiers-état, le clergé et la noblesse, mais il y avait aussi cet ordre économique-là.
Alors, cet ordre économique, effectivement, est d'inspiration réactionnaire, mais je rappellerai quand même qu'au XIXe siècle, même un socialiste comme Pierre Leroux utilise le terme de corporation. C'est-à-dire que le terme, il est quand même polysémique, et au fond, il
Proudhon
signifie...
Proudhon aussi, d'ailleurs.
Bien sûr. Et il signifie, par conséquent, la volonté d'association, le souci de s'associer face, justement, à des agents économiques qui, eux, sont évidemment plus puissants que le salarié qui se retrouve face à son patron.
Donc c'est avant tout antilibéral.
C'est antilibéral et de ce point de vue, le courant réactionnaire est à la fois antilibéral, il est en même temps profondément marqué par un catholicisme social qui précède la démocratie chrétienne et qui veut en finir avec un mode économique qui ne lui convient pas, dans la mesure où en plus il l'associe, et c'est un élément très important pour eux, à un processus de déchristianisation et à une montée en puissance des idées sociales. Socialistes et en particulier marxistes à partir des années 1870-1880.
Enquête de politique aujourd'hui sur les réactionnaires, les réacs comme on dit familièrement. Cette semaine, nous allons aux origines de la réaction avec maintenant François Huguenin, historien, essayiste, éclectique, hein, journaliste. Il a collaboré à la revue Réaction, un regard donc engagé sur ce mouvement. Il fut d'ailleurs dans sa jeunesse militant solidariste, c'est un mouvement d'extrême droite. Et il est l'auteur chez Perrin de L'Action française et de L'histoire intellectuelle des droites, le conservatisme impossible, toujours chez Perrin. Avant d'évoquer les grands auteurs réactionnaires, Bonal, Demestre, on commence par tenter de définir le mot réactionnaire, le mot réaction, le mot réac, avec François Huguenin.
C'est un mot finalement très courant, alors plus dans son abréviation, le réac, ou souvent le sale réac. C'est un mot qui dit très bien ce qu'il veut dire. C'est quelqu'un qui est en réaction. Et je pense que, avant d'être un courant politique, le réactionnaire est un tempérament. Un tempérament qui s'oppose, qui est en réaction avec un ordre des choses, un ordre du monde qu'il conteste, avec peut-être aussi cette petite idée qu'il faudrait réagir pour revenir à un avant, qui pourrait être mieux, mais c'est... Voilà.
Donc, c'est intéressant parce que quand j'ai fait une émission il y a quelques semaines sur le conservatisme, nos invités nous disaient « le conservatisme, c'est un tempérament, c'est pas une idéologie ».
Mais c'est vrai. Et le réactionnaire, c'est vraiment quelqu'un qui réagit contre de manière... On voit bien le ronchon derrière. Voilà.
Mais à la base, il réagit contre la Révolution.
Il arrive juste après... Voilà, il arrive tout de suite. Hein. Bonald et Mestre écrivent des textes réactionnaires. Alors à l'époque, on dit pas réactionnaire. On emploie le mot contre-révolutionnaire. Sauf que des textes contre-révolutionnaires, on en trouve autant chez Benjamin Constant que chez Joseph de Mestre. Alors pas avec la même pensée politique du tout. Sauf que la Révolution a fait tellement de dégâts, a tellement été loin de sa visée initiale, de celle de 89, que beaucoup de gens pouvaient être contre-révolutionnaires, mais dans des modes différents.
On peut être contre la méthode révolutionnaire, on peut être contre les excès de la Révolution, Benjamin Constant, on peut être aussi pour le retour à l'ordre précédent. C'est ça les réactionnaires.
C'est ça les réactionnaires, c'est ceux qui veulent revenir à un ordre précédent, balayent entièrement tout l'héritage révolutionnaire, en considérant qu'il est mauvais d'un bout à l'autre. Cette idée, d'ailleurs, que la révolution est un bloc.
Idée de Clémenceau.
Voilà, mais ce qui n'est pas complètement faux historiquement, parce que en réalité, la violence révolutionnaire, elle commence dès juillet 89. Mais c'est cette idée que tout est à jeter. Et que toutes les idées qui ont pu faire accoucher à la France de cette révolution sont des idées mauvaises. Et c'est ça qui va être le creuset de la pensée réactionnaire, et notamment de celle de Joseph de Maistre et de Louis de Bonald, qui vont être les deux grands inventeurs de cette tradition politique.
Donc François Huguenin, vous nous avez parlé de Joseph de Maistre et de Louis de Bonald, deux penseurs de la réaction. On va écouter Joseph de Maistre qui parle de la religion et de la philosophie.
La génération présente est témoin de l'un des plus grands spectacles qui jamais ait occupé l'œil humain. C'est le combat à outrance du christianisme et du philosophisme. Il n'y a plus de prêtres. On les a chassés, égorgés, avilis. On les a dépouillés. Et ceux qui ont échappé à la guillotine, au bûcher, au poignard, à la déportation, reçoivent aujourd'hui l'aumône qu'ils donnaient jadis. Vous craignez la force de la coutume, l'ascendant de l'autorité? Il n'y a plus de coutume, il n'y a plus de maître. L'esprit de chaque homme est à lui. La philosophie ayant rongé le ciment qui unissait les hommes, il n'y a plus d'agrégation morale. Les temples sont fermés ou ne s'ouvrent qu'aux délibérations bruyantes et aux bacchanales d'un peuple effréné. On a promené dans les rues des animaux immondes sous les vêtements des pontifes. Et sur ces autels que la foi antique environna de chérubins éblouissants, on a fait monter des prostituées nues. Le philosophisme n'a donc plus de plaintes à faire. Toutes les chances humaines sont en sa faveur.
Voilà, on vient d'écouter Joseph de Maistre. C'est pas Joseph de Maistre, c'est Georges Clès, l'acteur Georges Clès pour France Culture. Le texte date de 1797, Considération sur la France. Donc Joseph de Maistre oppose ici la religion et la philosophie.
C'est fantastique. Alors d'abord, deux choses. Considération sur la France, c'est sans doute un des plus grands textes politiques de Maistre. Il faut quand même rappeler que Maistre était au départ voltairien, ce qu'on ignore souvent, et que c'était un citoyen du royaume de Savoie, qui a été annexé par la France à la Révolution, donc qui est devenu français à la Révolution, il ne l'était pas au départ. Et ce qui l'a fait changer d'avis, c'est la violence qu'il a vue, notamment en Savoie, au moment de la Révolution. Ce qui est quand même pas inintéressant. Ce texte pose un problème considérable. Sous prétexte de défendre la religion catholique qui a été fort malmenée à la Révolution, notamment avec la constitution civile du clergé, Maistre fait quelque chose qu'aucun catholique n'a fait pendant des siècles, opposer la philosophie à la religion, alors que toute la grande tradition catholique de saint Augustin à saint Thomas et tout le thomisme, au contraire, essaye de faire marcher ensemble la raison humaine, la philosophie et le catholicisme. Et c'est là où on voit arriver la pensée réactionnaire. C'est-à-dire que Joseph de Maistre, en étant tellement en réaction contre la Révolution, se sépare de la tradition même du catholicisme. Et donc, c'est ça qui est absolument fascinant dans cette pensée, c'est qu'en fait, il recrée un catholicisme à zéro qui fait l'impasse sur 18 siècles de tradition catholique.
Et d'évolution.
Et d'évolution,
bien sûr. Est-ce que c'est ce qu'on appelle, François Huguenin, l'ordre naturel des choses que défendront les réactionnaires?
Oui, l'ordre naturel des choses qui est toujours chez les réactionnaires allié à une sorte de fixisme, qui fait d'ailleurs que leur conception de l'histoire est totalement déconnectée de la réalité historique. On a l'impression qu'il y a un ordre naturel des choses, et pour les réactionnaires, que ce soit Maistre ou Bonald, le pouvoir politique doit être le plus soustrait possible à la volonté individuelle, donc évidemment à la volonté du peuple, mais aussi à celle du souverain, qui doit juste être celui qui respecte et fait respecter l'ordre naturel des choses.
Ouais, c'est étrange, en 1797, date de ce texte, quelle est l'audience et l'aura de Joseph de Maistre en France?
C'est un penseur qui est important. Pour une chose qu'on a pu saisir en écoutant cet extrait, c'est que c'est un extraordinaire écrivain. Il a un style absolument magnifique, très voltairien d'ailleurs aussi. Et donc il manie la langue française avec une subtilité, avec des effets absolument parfaits, contrairement à Bonald qui écrit comme un cochon.
On va l'entendre.
Mais Maistre est un immense écrivain. Mais il aura aussi une aura parce qu'il ose. Il ose quelque chose, encore une fois, je me répète, mais c'est très important, il ose réinventer un christianisme et un catholicisme qui n'ont jamais existé, mais il est très convaincant, c'est un très bon rhéteur, et on a l'impression à l'entendre que, finalement, il faut choisir son camp entre la philosophie et la religion, entre la pensée et la foi.
C'est un classique des réactionnaires, ils subliment le passé, ils font du passé une sorte de rêve éveillé qu'il faudrait retrouver.
Oui, c'était...
C'est
ce que j'allais dire, il réinvente un passé qui est tout à fait différent de la réalité historique, et très souvent d'ailleurs, les penseurs réactionnaires s'appuient sur une historiographie très faussée.
Oui, on a des échos dans l'actualité des réactionnaires d'aujourd'hui, on y reviendra. Vous avez parlé de Louis de Bonald, autre penseur réactionnaire. Je vous propose d'écouter un texte, alors là, c'est pas lui non plus, c'est Didier Sandre de la Comédie Française. Le texte date de 1816.
Le divorce fut de tous les désordres du paganisme, celui qui résista le plus longtemps à l'influence de la religion chrétienne. Il fallut, pour déraciner l'habitude du divorce, toute l'autorité des chefs de l'Église. Mais la Révolution française, qui s'est emparée de tous les moyens de séduction et de désordre, ne négligea pas ce moyen-là. Le divorce fut à nouveau décrété, et il est resté dans notre législation jusqu'à nos jours. Monument de honte et de licence qui attestera au siècle futur qu'elles ont été la faiblesse des mœurs et le dérèglement des esprits. Il faut aujourd'hui assurer, par des lois fortes, la stabilité de la famille.
Voilà, Louis de Bonald, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il écrivait comme un cochon, mais là, évidemment, sublimé par la magnifique voix et le verbe de Didier Sandre de la Comédie Française, c'était un extrait de La Séance est ouverte au Vieux Colombier. On avait recréé des débats parlementaires sous l'égide de Jean Lebrun. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur Louis de Bonald? C'est un personnage singulier.
Oui, alors là aussi, il y a quelque chose qui est très intéressant chez Louis de Bonald. C'est un aristocrate de l'Aveyron qui accueille avec très favorablement la Révolution française.
Au départ, oui.
Au départ, très favorablement. Il est plutôt ouvert aux idées nouvelles. Et ce qui va absolument faire le basculement de Louis de Bonald, c'est la politique anti-religieuse, anti-chrétienne de la Révolution française. Et Bonald va avoir cette idée, qui à mon avis est quand même assez historiographiquement fausse, que la Révolution française est avant tout une révolution religieuse. Et il va choisir l'émigration, comme beaucoup de membres de la noblesse, en 1791.
Je précise juste que c'est un texte de 1816, donc un an après la Restauration.
Voilà, un an après la Restauration, à un moment où, d'ailleurs, il y a un combat entre ceux qui veulent que la Restauration soit un retour en arrière, à l'avant 89, c'est la position de Bonald, c'est la position des réactionnaires, et ceux qui souhaitent que la Restauration stabilise enfin la Révolution après ces régimes successifs de la Révolution.
Ça, ce sont les conservateurs et ils les appellent les modérés.
Oui, ils les aiment pas, ils les aiment pas du tout. Alors, ce qui est très intéressant dans ce texte, je trouve, c'est que au fond, Bonald assimile totalement la religion et la morale. Ce qui est quelque chose, là aussi, d'assez contestable. En réalité, le christianisme est tout sauf une morale au départ. Le christianisme, c'est quoi ? C'est l'annonce d'une bonne nouvelle qui est que nous sommes tous amenés à connaître la résurrection à la suite du Christ. C'est quand même autre chose que des histoires de morale et de divorce. Et là, on voit qu'il y a une confusion chez Bonald, c'est-à-dire que la violence anti-religieuse de la Révolution française lui fait croire sans doute de bonne foi, parce que c'est sans doute un homme de très bonne foi, que au fond le christianisme est inséparable d'une vision morale. C'est une manière, à mon avis, très contestable de voir les choses. Il y avait une morale publique qui a été évidemment en partie nourrie par le christianisme, mais le christianisme, à travers les âges, a pu s'adapter à des sociétés qui avaient des morales assez différentes.
Mais vous parlez de morale, mais la Révolution, c'est une révolution contre une organisation en ordre, en trois ordres, dont la religion, c'est cet ordre-là qu'il veut rétablir, ou simplement la morale ?
Alors, je pense qu'il veut rétablir un système de société qui est celui de la France d'Ancien Régime, et qu'il veut surtout que le pouvoir politique intervienne le moins possible dans l'action publique. C'est-à-dire qu'il y a une tentation immobiliste chez les penseurs réactionnaires, et notamment très fortement chez Bonald, qui est de dire, au fond, il faut revenir à un avant et ne plus bouger. Mais du coup, cet avant est paré de vertus qu'il n'avait pas. Enfin, la France du XVIIe et du XVIIIe siècle n'était pas un pays où la morale était partout respectée. On le saurait si c'était vrai. Et il y a donc cette mythification du passé et qui, me semble-t-il, joue quand même largement contre son camp. Parce que si le catholicisme est défendu par les réactionnaires uniquement parce qu'il interdit le divorce, franchement, il fait pas très envie.
Nous sommes toujours avec l'historien et essayiste François Huguenin, que l'on va retrouver juste après une chanson vraiment réac, par un chanteur vraiment réac, Jean-Pax Mayfray, sur France Inter. Alors, il se voulait le Lavillier de droite, vous allez voir, il y a encore un peu de boulot. Écoutez bien les paroles.
Depuis que ma mémoire existe, j'ai entendu vanter toutes les solutions marxistes au nom des peuples à libérer. Mais quand le jour maudit arrive, que vos régimes sont au pouvoir, le pays part à la dérive et puis se lève le soleil noir. Vous allez me traiter de réac, allez dire que je suis facho, mais vous me filerez pas le trac, vous les pros de la démago, je sais ce que valent le promo. Le sang qui coule sur Phnom Penh a pris sa source dans vos esprits, vous avez fait germer la haine en soutenant Khomeini, vous êtes tous ces horizons sans espoir, et vos consciences de coupables portent la tâche du soleil noir. Vous allez me traiter de réac, vous allez dire que je suis facho, mais vous ne me filerez pas le trac, vous les pros de la démago, je sais ce que valent. Avant de reprendre vos plumes pour creuser de nouveaux abîmes, traverser les rideaux de brume, venez dénombrer vos victimes. Ça vous évitera d'écrire pour faire pardonner vos mouroirs.
Je ne savais pas que ce serait pire lorsque se lève le soleil noir. Moi, je ne suis pas un réac. Moi, je ne suis pas un facho.
C'était Jean Pax Méfray, la chanson s'appelle « Les démagos » sur l'album titré « Vous allez me traiter de réac ». Bah oui.
France Inter, en quête de politique, Thomas Legrand.
Et c'est l'heure de retrouver le livre d'Aurélie Marcirot. On parlait du style littéraire des réactionnaires avec François Huguenin, que l'on va retrouver dans quelques minutes. On parlait de ce style littéraire à propos de Mestre et Bonald. Eh bien, on va continuer sur ce thème avec vous, Aurélie, et l'ouvrage de Vincent Berthelier, Le style réactionnaire de Maurras à Houellebecq aux éditions Amsterdam.
Pourquoi attribue-t-on le style aux écrivains de droite? Ce livre, la thèse de ce maître de conférence en littérature française à l'université Paris-Cité, pose la question: est-ce que, comme on l'entend souvent, les réactionnaires révolutionnent le style en raison de leur radicalité politique? Et de citer Houellebecq faisant dire à Philippe Solers dans Les Particules élémentaires: vous êtes réactionnaire? C'est bien, tous les grands écrivains sont réactionnaires. Balzac, Flaubert, Baudelaire, Dostoïevski, que des réactionnaires. Alors Thomas, pour faire de la bonne littérature, il faudrait donc être au-dessus de la mêlée, au-dessus du peuple.
Et la réponse est...
C'est compliqué. En littérature, c'est vrai, les révolutionnaires conservent et les réactionnaires révolutionnent le style. Les amis du peuple parlent le français de Richelieu, les amis de l'ordre jargonnent comme des apaches, exemple Céline. Alors l'auteur ne tranche pas cette question de savoir si le style de ses auteurs est aussi innovant et anticonformiste qu'ils veulent bien le croire, mais il analyse les évolutions de la littérature réactionnaire au siècle dernier.
Et il distingue trois périodes.
Oui, début du siècle, cette littérature règne sur le paysage des lettres françaises avec comme maître Maurras, figure tutélaire du style réac. Idéologie et écrit sont alors très liés. Dans le viseur, le romantisme, ce produit de la révolution et de la promotion de l'individualisme qui entraîne une décadence littéraire et sociale. Alors dans la galaxie Maurras, on trouve Bernanos, Brasillac, Rebatté, Drieu-La Rochelle. Dans l'entre-deux-guerres, Paul Morand ou encore Jacques Chardon, si cher au cœur de François Mitterrand. À ce moment-là, la littérature est subordonnée, je cite, à des idées saines et une langue parfaite. Le style est l'expression des idées, avec une exception, Céline, qui lui n'a pas de lien avec Maurras. Après 45, la droite est décrédibilisée, l'épuration touche le champ littéraire. Condamné à mort Brasillac, emprisonné Maurice Rebatté, exilé Morand, et puis tous ceux qui, comme Chardon, doivent abandonner leur fonction éditoriale. Alors on a compté des résistants hein, comme Mauriac ou Bernanos, mais la droite perd sa légitimité. La gauche domine le débat idéologique et les lettres. Alors pendant la deuxième période, ceux que l'on appelle les hussards vont essayer de réhabiliter les anciens. Jacques Laurent, Antoine Blondin et Roger Nimier vont essayer de revaloriser le style pour lui-même. Céline, lui-même, rappelle l'auteur, attribuer l'origine de ses malheurs à ses audaces stylistiques. Nimier, qui œuvre à sa réhabilitation, utilise la même ligne de défense. Même chose pour Morand et Chardon, de purs stylistes dont les engagements doivent être tenus pour nuls. Mais pour autant, pas de retour en force de cette droite.
On arrive aux années 80.
Oui, avec une rupture générationnelle, Renaud Camus, Richard Millet et puis surtout Houellebecq qui refusent le style pour le style. Je cite Céline, surévaluée, Morand et Chardon des médiocres. Il me semble que leur étrange surestimation tire son origine d'une accentuation perverse de l'adage qui pourrait se formuler ainsi. Si c'est un salaud, c'est probablement un bon auteur. Houellebecq, on le voit, critique le patrimoine droitier. Son caractère réac est plus éthique que politique, basé, je cite, sur la nostalgie d'un patronage idéologique de l'Église et le diagnostic pessimiste du déclin de l'Occident, écrit l'auteur. Pour Houellebecq, il faut donc se méfier du style comme procédé.
Alors, il n'y a pas de femme du tout dans cette littérature, Aurélie.
Oui, c'est vrai. L'auteur explique que cette marginalité s'explique par la misogynie du milieu réactionnaire dans un monde littéraire où celle-ci est déjà considérable.
Merci Aurélie, et on continue notre exploration des origines du mouvement réactionnaire. En quête de politique est réalisé par Christophe Imbert, archive sonore Franck Olivard, aujourd'hui à la technique Antoine Teboul, programmation musicale Thierry Dupin, et on retrouve l'essayiste et historien François Huguenin.
Finalement, intellectuellement, qu'est-ce que représentent les réactionnaires dans ce 19e siècle émaillé de révoltes, de journées d'insurrection plutôt républicaines?
Il représente une opposition qui se place résolument en dehors du jeu politique. On les appelle les ultras à l'époque. On n'appelle pas ça l'extrême droite, on dit les ultras. Et ces ultras, ils ont un moment d'influence particulière, c'est sous le règne de Charles X. Louis XVIII, qui était un homme intelligent, avait très bien compris que de toute façon, on ne pouvait pas revenir à un avant la Révolution française. Son frère Charles X, qui était beaucoup moins malin, lui avait cette idée qu'on pouvait revenir à une monarchie d'antan. Et donc, au moment du règne de Charles X, d'ailleurs dans la deuxième partie de la Restauration, c'est le moment béni pour les réactionnaires. Et ensuite, au fond, ils vont être en permanence dans une opposition qui aura à un moment donné l'espérance que le comte de Chambord acceptera le trône qui lui tend la main, mais le comte de Chambord, on le sait, refusera parce qu'il veut le drapeau blanc. Et c'est un symbole qui veut dire qu'il veut non pas une monarchie qui se réinstaure après la période révolutionnaire, mais une monarchie d'avant, c'est-à-dire la posture réactionnaire, et évidemment, voilà, ça ne marchera pas.
C'est le roi des Français, roi de France, voilà. Ce dilemme. Est-ce que les réactionnaires ont de l'influence uniquement sur l'ancienne noblesse, sur les exilés, qu'ils soient revenus en France ou pas? Ou est-ce que c'est une mouvance populaire aussi?
Dans la France des campagnes, il y a beaucoup de paysans qui sont relativement attachés à leur seigneur. Il y a des solidarités campagnardes, on va dire, qui aujourd'hui nous échappent un peu, qui existent. Après, ce ne sont pas eux qui lisent les discours et les écrits des penseurs réactionnaires. Ils ont une influence. Mais
dans l'Église aussi, non? Petits curés de campagne, il y a ce qu'on appelle le parti catholique.
Voilà, alors il y a une influence dans l'Église, même si dans l'Église, il y a des prélats qui sont beaucoup plus proches d'un catholicisme qui trouve que la liberté est bonne, et tout, autour par exemple de quelqu'un comme Montalembert. Donc c'est partagé également dans le clergé, mais la majorité du clergé est plutôt proche des thèses réactionnaires.
Et pendant la Troisième République, c'est là qu'une partie de la droite, finalement, avec les opportunistes, rallie la République. Donc à partir de, disons, 1870, 1880, il y a un reflux de la réaction. En tout cas, dans l'expression publique.
Ah oui, à partir du moment où la Troisième République se stabilise avec le fameux amendement Vallon et où le comte de Chambord, finalement, rate l'occasion. La dernière occasion, en fait, de restauration de la monarchie.
L'amendement Vallon à une voix près.
À une voix près. Mais oui. Mais donc, la République se stabilise doucement, mais elle, par la petite porte, mais elle se stabilise. Et là, on a une décadence, je dirais, de l'influence des réactionnaires, qui va, de manière très étrange, ressurgir, mais d'une manière un peu différente, à la faveur de l'affaire Dreyfus.
Oui. L'affaire Dreyfus. Donc là, les réactionnaires arrivent à trouver, avec l'antisémitisme, finalement.
Et le nationalisme.
Et le nationalisme.
Voilà. Il trouve un sang nouveau.
Vous nous dites qu'avant l'affaire Dreyfus, le nationalisme était de gauche et après,
oui,
il est de droite. Expliquez-nous ce transfert.
Avant l'affaire Dreyfus, l'idée de nation est une idée de gauche. C'est-à-dire que c'est l'idée...
Soldat de l'an 2, Valmy...
Bien sûr, et puis c'est l'idée aussi de qu'est-ce que le tiers-état de CIS, c'est-à-dire que c'est l'idée de la déclaration de l'article 3 de la déclaration des droits de l'homme. Toute souveraineté réside en la nation. Et tout pouvoir qui ne tient pas sa souveraineté de la nation est illégitime. Donc c'est vraiment une idée de la Révolution. Et les royalistes, eux, considèrent que la nation n'existe pas véritablement. Ce qui existe, c'est une France qui est incarnée par un roi.
La France, voilà, éternelle, la fille aînée de l'Église, elle n'a pas,
oui,
de frontières particulières.
Elle n'est pas pensable sans la monarchie. Et donc, il y a effectivement ce nationalisme qui est à gauche. Ce qui se passe au moment de l'affaire Dreyfus, c'est que tout d'un coup, l'idée de nation est brandie par des gens qui sont du camp réactionnaire, notamment quelqu'un comme Maurras qui a énormément lu Mestre et Bonald, et qui invente une nouvelle conception de la monarchie qui est en fait un nationalisme jusqu'au boutiste, un nationalisme cohérent. Maurras dit, si vous êtes nationaliste, vous devez en conclure à la monarchie.
Quel est le précipité politique? C'est l'alliance du sabre et du goupillon? C'est l'armée qui se sent trahie et la religion?
Ah non, c'est l'alliance...
Pour que la nation devienne de droite.
C'est l'idée de protéger, de défendre l'armée trahie par Dreyfus et par les Dreyfusards. Cette défense de nation passe à droite, alors qu'à gauche, Face au scandale de l'accusation injuste de Dreyfus, à gauche, on commence à se rendre compte que finalement, au-delà de la nation, il y a des valeurs humanitaires qui font le terreau et le ciment de la gauche. Et donc, la gauche, quelque part, laisse un petit peu à la droite le terrain de la nation.
Et en même temps, à la même époque, le républicanisme, c'est le radicalisme, et la gauche devient aussi un peu socialiste, oui. Avec la SFIO qui va naître. Et donc, il y a un aspect internationaliste. Et donc là, il y a plusieurs facteurs qui se coagulent pour que la nation passe à droite.
Alors voilà, et alors, il restera toujours des nationalistes de gauche. Quelque part, Clémenceau, quand Clémenceau dit « je fais la guerre à l'intérieur, je fais la guerre à l'extérieur, je fais la guerre partout », on peut difficilement faire un discours plus
national. Non, mais même Jaurès, voilà. Jaurès avec Guède en 1900, affirme la République et donc la nation.
Absolument. Donc, ce n'est pas si simple, évidemment. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que cette idée de nation devient le levier à droite pour crédibiliser un retour à un avant la Révolution.
Et là, il y a un penseur, Charles Maurras, oui. Qui apparaît et qui devient un leader intellectuel dont on n'a pas idée aujourd'hui. Donc au début du XXe siècle, Charles Maurras prend l'ascendant sur la vie intellectuelle française.
Ah oui,
une grande partie en
tout
cas.
Non, mais c'est vrai, on n'a plus idée. Évidemment, l'aventure du maurrassisme s'étant terminée dans le désastre de Vichy, évidemment, on a un peu tendance à regarder avec le rétroviseur tout ce qu'a été l'influence de Maurras et de l'Action française, pas numériquement, parce que c'était un groupuscule, mais intellectuellement sur la...
Ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligentsia était maurrassienne.
Non, mais il suffit de voir les lettres que Proust écrivait à Maurras, ou il suffit de voir l'immense estime que Poincaré, qui était quand même un des hommes politiques majeurs de la Troisième République, portait à Maurras. Sans être maurrassien pour autant, attention, je ne suis pas en train de faire ce que font trop les gens de cette école de pensée, c'est d'annexer tout le monde. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que Maurras était une stature intellectuelle extrêmement importante et que personne ne sous-estimait l'importance intellectuelle. Pourquoi ? Parce que il avait une méthode politique empirique, extrêmement rationnelle, c'est son influence positiviste, disant, au fond, hors de notre préférence pour la nation qui conclut à la monarchie, il n'y a pas de politique possible pour la France.
Donc en 1936, Front Populaire, les Ligues sont dissoutes et l'Action française est dissoute. En 38, Charles Maurras passe quelques mois en prison, il est libéré et il est reçu à l'Académie française. On va écouter le discours de Charles Maurras, pas tant pour le contenu de ce qu'on va entendre que pour entendre la voix fluette et significative de Charles Maurras.
Ma vie s'est dépensée tout entière à essayer de constituer une sorte d'esprit public commun à la France, un état stable, durable et autant que possible se rapportant à toutes les grandes forces du passé. Que je sois désemprisonné, que je sois envoyé à l'Académie française, ce sont toujours des récompenses.
François Huguenin, donc Charles Maurras dit quand le maréchal Pétain prend le pouvoir, le 10 juillet, quand le gouvernement français devient l'État français, la République française devient l'État français, dit « divine surprise ».
Oui. D'ailleurs, souvent, on a dit que c'était qu'il avait dit ça face à la victoire de l'Allemagne, ce qui est totalement faux. Il n'y avait pas plus germanophobe que Maurras. Pourquoi ? Parce que Pétain, c'est le vainqueur de Verdun. Il n'est pas spécialement connu, Pétain, pour être un général et un officier supérieur de droite. De Gaulle était beaucoup plus proche de ces idées-là que Pétain. Mais là, c'est des histoires de caractère. Maurras, finalement, n'a eu de cesse d'être, au fur et à mesure du temps, un notable. Finalement, il ne renverse pas la République. D'abord, il faut voir une chose. L'Action française change énormément au moment de la guerre 14-18. Avant la guerre 14, c'est vraiment un mouvement insurrectionnel qui n'a comme objectif que de renverser la République. Pendant 4 ans dans les tranchées, les camelots du roi sont dans les tranchées à côté de l'instituteur radical socialiste pour souffrir.
Il en sort la chambre bleu horizon qui, voilà, qui dans laquelle, pas maurrassienne.
Voilà, dans laquelle Léon Daudet est député. Il est membre du comité directeur de l'Action française, Léon Daudet, donc il est député. Et donc en fait, petit à petit, ça se notabilise. Et puis voilà, et Maurras finit par l'Académie française. Et il va finir par être un soutien du régime de Vichy. À l'époque, d'ailleurs, on n'appelait pas ça pétainiste, on disait maréchaliste. Ce qui montre une sorte de déférence, comme ça, à un titre que ce qui est celui de maréchal de France, et qui montre combien, au fond, le moras insurrectionnel né au moment de l'affaire Dreyfus jusque dans les années 10 est devenu un notable. Et c'est très, très étrange.
Ça devient littéraire et nostalgique, et c'est plus une ambition politique.
Oui, on peut dire que l'Action française n'a plus d'ambition politique après la Deuxième Guerre mondiale, en réalité. Et Maurras, qui est sourd, hein, ça explique sa voix pour l'auditeur qui se demande peut-être qu'est-ce que c'est que cette voix. Maurras était sourd. C'est certainement aussi quelqu'un qui s'est de plus en plus enfermé dans une conception des choses très littéraire, polémique, parce qu'il avait cet art-là, mais au fond déconnecté de la réalité politique. Comment n'a-t-il pas vu, lui qui a été toujours germanophobe, que c'était le moment peut-être pour les monarchistes de prendre l'occasion de la résistance pour pouvoir être le parti de la résistance? Et ils ont laissé ça aux communistes, enfin les communistes après la rupture du pari germano-soviétique.
Voilà, le jeune Pierre Cordier par exemple en témoigne parfaitement.
Mais absolument.
Après la guerre, où est la réaction?
Après la guerre, la réaction n'a plus de terrain de jeu parce que il y a De Gaulle. De Gaulle incarne une légitimité qui est, au fond, une légitimité de la France éternelle, à la fois monarchique et républicaine. De Gaulle fait ce que aucun monarchiste n'aurait pu rêver, c'est-à-dire une constitution républicaine qui est une sorte de mixte entre les institutions de la monarchie et celles de la République.
Donc l'idée de revenir à un ordre ancien,
donc, c'est
de toute façon, s'est évanouie.
C'est terminé. Il y a juste un moment où politiquement il y a une lueur qui existe, c'est l'affaire d'Algérie avec les officiers putschistes. Et là, on a un nouveau nationalisme français qui naît, mais qui n'est plus du tout le nationalisme maurassien, et qui est ce nationalisme français d'extrême droite qui donnera tous les mouvements d'extrême droite français depuis la fin de la guerre d'Algérie.
Le Front National en particulier. Est-ce que vous diriez que Jean-Marie Le Pen, à partir de 1972, donc il crée le Front National en 1972, était un réactionnaire? On sait que son héros, c'est Cadoudal, donc ce Vendéen qui a voulu tuer Napoléon, ce Vendéen monarchiste qui a voulu tuer Napoléon. Est-ce que c'était un réactionnaire pour vous?
Je crois pas. Je crois pas, ne serait-ce que parce que, en réalité, il n'a jamais été anti-républicain. Alors, il a une conception de la République qui, a priori, ni la vôtre ni la mienne. Mais il n'est pas anti-républicain.
Un peu comme Delarocque.
En plus violent, me semble-t-il, et en plus étrange, parce que, au fond, et on le voit avec sa fille, dans les discours successifs du lepénisme, on a navigué de la droite à la gauche, de manière d'ailleurs très floue, très opportuniste, avec une chose qui fait le lien entre cette extrême droite-là et le maurrasisme, c'est la logique du bouc émissaire. C'est-à-dire que, évidemment, le Front National a fait son fonds de commerce sur la haine de l'étranger, tout comme l'Action française a eu comme levier la haine des quatre États confédérés, dont les Juifs. Ça, il y a quelque chose effectivement de commun, mais il y avait quand même une pensée chez Maurras, pardon, qui a pas eu dans le lepénisme, et il y avait cette espèce de nostalgie romantique d'un retour en arrière.
On dirait que vous nous dites que les réactionnaires c'était mieux avant.
Ben, en tout cas, oui, en tout cas intellectuellement c'était quand même un petit peu plus stimulant.
Et justement, la semaine prochaine, nous allons poursuivre notre voyage en réaction depuis la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Les racines de ce mouvement intellectuel, médiatique et politique, ces nouveaux réacs, les trois épisodes, agrarisme, celui d'aujourd'hui et celui de la semaine prochaine, trois volets d'enquête de politique sur la réaction qui sont déjà disponibles en podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec Olivier Dard et François Huguenin, historiens de la droite, du conservatisme et de la réaction. En attendant, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.